président, Madame Chirac, Bernadette. Sur vos roues, j'ai perdu mes dents. Sur vos roues, j'ai vu la fête. Le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins. Le vent, c'est dessiné en mille facettes. Interrogez les rues d'un gars, sans oublier rue de Lafayette. Ils vous diront, il faut avoir un grain. C'est les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que c'était sain, je conduisais une camionnette. Sincèrement, j'ignorais le tas. Cela peut arriver au prophète. Monsieur le président, Madame Chirac, Bernadette. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains. Au moins, cassez les lunettes. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perde la tête. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de mes petits futurs, l'angoisse vous veut la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Il m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à la marche ou crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes du Toutry-Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ce qu'on construit, le musée, le rangeur de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes, et compris les mains. Pire que les nazis, l'entend d'Hitler, mon père, il a défendu la source et les artères. Dans l'ennemi de son fils numéro 1. Mais j'excuse les lésés si j'ai plus de frein. Si je laisse le moisi, adieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de mes petits futurs, l'angoisse vous de la preuve. La rage. Je vous fais serment devant le juge. Tu juges, c'est qu'ils m'ont jugé tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin. Il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, s'agit des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir. Je leur envoie les câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés. J'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'un âne m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui, c'est vrai qu'un âne, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance, mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de mes petits futurs, l'angoisse vous veut la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de mes petits futurs, l'angoisse vous veut la preuve. La rage.
Chers auditeurs de Pas de quartier, l'émission du groupe Louise Michel, nous sommes de retour après 15 jours d'absence avec François. Bonjour François.
Bonjour Mariama, bonjour Alexandre.
Bonjour Alexandre, effectivement. Bonjour. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un appel sur les droits en Russie, l'antifascisme dans le monde, l'appel à rassemblement du 19 janvier, donc d'hier. À propos du 19 janvier 2009, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, malheureusement, pour les droits de l'homme en Russie pour et les droits de l'homme et de la femme en Russie.
Pour les droits humains, pour la lutte progressiste et antifasciste, ça a été un moment très tragique, puisque un avocat qui était très célèbre déjà, malgré son âge jeune, il avait 36 ans, Stanislav Markelov, a été assassiné en plein centre-ville de Moscou. Après sa conférence de presse, il a été assassiné par un inconnu. Et à l'instant, on ne savait pas qui était l'assassin. Mais on avait des hypothèses très claires à ce propos. Et à son côté, une jeune journaliste, Anastasia Baburova, marchait. Elle était encore plus jeune, 26 ans.
Mm-hmm. Anarchiste.
Anarchiste, tout à fait. Antifasciste, très active et très activement impliquée dans les luttes sociales. Pardon. Et là, justement, elle a cherché d'arrêter l'assassin avec les mains, avec des gestes. Elle était entraînée, elle étudiait l'autodéfense, mais malheureusement, ce n'était pas suffisante. Et donc, elle a été hospitalisée et elle était morte à l'hôpital. Et donc, ces deux personnes sont devenues emblématiques. Markelov, qui était déjà archi connu pour ses procès politiques, pour la défense des antifascistes, des défenseurs des droits humains, des journalistes. Il était franchement à côté de toutes les personnes et tous les groupes qui étaient les porteurs de l'agenda progressiste. Mmh. Et elle, qui était avec tel courage qu'elle a cherché à arrêter le tueur, l'assassin, ça a devenu à la fois un événement choc. Et beaucoup des milieux qui n'étaient pas avant concernés par les causes antifascistes, de gauche, de la défense des droits humains, étaient aussi interpellés par cet assassinat. Et ensuite, ça a été aussi le courage d'Anastasia qui a ajouté encore plus de... on pourrait dire, ça a donné un exemple d'une vie qui a été brève, qui a été... prometteuse, qui a été aussi étincelante et jusqu'au bout, qu'elle a cherché vraiment à faire tout le possible pour protéger son camarade.
Alors, Alexandre, tu te définis comme tu te présentes comme partisan, oui, du comité parisien du 19 janvier 2009. Donc, ce week-end, vous avez fait un débat, une conférence débat à la Bourse du Travail de Château d'Eau. Et lundi, vous avez fait un rassemblement à la fontaine Tinguely, pas loin de Beaubourg. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur le débat à la Bourse du Travail? Comment vous l'avez organisé? Qu'est-ce qui a été dit? Quelle a été l'ambiance?
Tout à fait. Juste peut-être avant de aller directement sur le débat, je voudrais un peu expliquer le titre du comité et pourquoi il n'y a pas des représentants, mais il y a des partisans. Puisque tout au départ, la figure de Markelov a été une figure unique. Il était vraiment un médiateur entre plusieurs milieux militants qui n'avaient pas de lien, qui ne communiquaient pas entre eux en Russie dans les années 2000. Ça a été les milieux de gauche, d'antifascistes, des défenseurs des droits humains, qui se fréquentaient pas, qui se voyaient pas comme des alliés. Et donc Markelov était un avocat de gauche, mm-hmm, une figure très rare, qui ne cherchait pas de division et des... sectarisme, on peut dire comme ça, qui ne défendait pas et qui, au contraire, qui cherchait de combattre le sectarisme militant. Et donc, une fois que ces événements tragiques ont eu lieu, tous les milieux qu'ils réunissaient se sont réunis, se sont rencontrés pour installer, pour constituer un groupe, une organisation, un réseau qui pourrait porter la cause. Donc, il y en avait des personnes de différentes orientations politiques, évidemment pas de la droite, extrême droite, mais par exemple des libéraux, des défenseurs de droits humains qui croient que la plus belle chose dans le monde, c'est la démocratie libérale. Et là, malgré les différences et les conflits politiques sous-entendus, sous-jacents de cette composition, il y avait quand même une cause commune. Et là, à ce moment-là de la constitution du comité à Moscou, la décision a été prise que le comité reste anonyme, que le comité empêche la récupération de la cause par tel ou tel groupe politique, et ça a été respecté, et c'est respecté jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi il y a des figures plutôt publiques, mais qui ne sont pas forcément, qui n'appartiennent pas au cœur du comité. Il y a des personnes comme moi, les partisans, qui peuvent se présenter sur la scène publique, qui portent la cause. Moi, personnellement, je connaissais Stanislav Markelov, on était des interlocuteurs, donc je me sens légitime aussi de parler de ces événements de ma propre personne, mais jamais... Si vous voyez que quelqu'un dit « Moi, je suis le représentant du 19 janvier, c'est moi qui porte la cause », donc c'est vraiment quelque chose...
Un menteur, c'est un menteur.
Un imposteur.
Oui. D'accord. Donc c'est... En fait, il était le fil conducteur de toutes les luttes, M. Markelov.
Oui. Donc, il était très... il était polyvalent, on peut dire. Mm-hmm. Comme j'ai dit, il défendait, mais aussi dans la durée, des milieux des antifascistes et des milieux des militante de gauche qui était très réprimée et très... c'était assez de la niche, franchement, dans les années 2000, en Russie, car le projet, le grand projet communiste officiel a été battu, a été renversé. Et donc, la reprise de la gauche a été assez douloureuse, et surtout avec le dérive du parti communiste vers la religion, l'antisémitisme, etc. Ça a été une marque tout à fait peu souhaitable.
Et infamante.
Exactement. Et donc la gauche progressiste qui s'est constituée de nouveau avec des liens beaucoup plus forts avec l'Europe et les mouvements mondiaux, ça a été assez marginal. Et donc Markelov était vraiment très carrément sur le côté de ces mouvements progressistes. Mais ce n'était pas sa spécialité unique. Il était aussi à côté, par exemple, des travailleurs qui ont cherché à récupérer les industries abandonné par les patrons, qui a cherché d'installer l'autogestion industrielle, l'autogestion de travailleurs.
Ça, c'est un projet anarchiste.
Absolument. Il était sociodémocrate, disons, au niveau de sa casquette, mais sous la casquette, on trouvait vraiment beaucoup de sympathie pour l'anarchie, mais aussi pour la défense des droits humains. Donc, il était vraiment unique dans ce sens-là. Et il a défendu beaucoup les minorités ethniques, ce qu'on trouve, ce qu'on appelle en Russie les minorités, donc les Tchétchènes, les Bouréates, les populations qui souffraient du racisme implicite de l'armée et de la police, qui souffraient, par exemple, un de ces cas les plus célèbres, c'est Elsa Kungaeva,
oui,
une jeune fille tchétchène qui a été violée et mutilée par un officier de l'armée russe.
Tout à fait. On a entendu parler, nous les féministes,
et
on
voilà.
On avait fait des campagnes de collecte pour financer la défense de sa famille.
C'est
qui
très
avait porté
honorable. Oui. Ouais, et donc, vous voyez que l'agenda de la discussion à la Bourse de Travail réunissait aussi plusieurs facettes de ces activités. Donc, à la fois, on a discuté la montée de la violence de l'extrême droite, en Russie comme dans le monde, et plus généralement la montée de l'extrême droite, parce que désormais, ce n'est plus la spécialité de la Russie ou de l'Europe de l'Est. Ça, c'est institutionnalisé avec l'arrivée de Donald Trump, d'Orban et de plusieurs autres présidents au sommet de l'État. On voit bien que l'agenda des niches des néo-nazis est devenu le discours officiel des gouvernements. Et ça, c'est quelque chose qui commence à interpeller les personnes qui n'étaient pas avant sensibles à l'argument antifasciste, mais qui commencent à voir que les niches fascistes remplissent aujourd'hui les sommets d'État. Ça, c'est très dangereux. Donc ça, c'était un des arguments qu'on a discuté en profondeur. Puis, ça a été la perspective du mouvement antifasciste dans des conditions assez complexes, y compris des conditions idéologiques, puisque le Kremlin, par exemple, et vous le savez très bien, a récupéré le discours antifasciste, anticolonial. Et il joue beaucoup pour charmer la gauche européenne. Et donc, on a discuté, qu'est-ce que cela veut dire être antifasciste aujourd'hui, historiquement, par exemple, dans la perspective de la libre pensée et laïcité, de la perspective de la montée du fascisme italien, qui a été bien problématisé par Umberto Eco, ou bien par de la perspective de l'antifasciste de rue, combattant, qui, en Russie des années 2000, quand l'État est parti des rues, qu'il a laissé des rues, qu'il a abandonné les rues aux rencontres assez violentes entre les groupements de tout type, les antifascistes de rue, des gamins, des jeunes, des fans de foot qui ont pris l'autodéfense dans leurs mains, ils remplissaient en partie la fonction de l'État, ce qui n'est pas du tout le cas en France, j'imagine.
Non.
Et là, justement, ce sont des nuances qui sont très importantes à discuter pour remettre l'antifascisme dans la perspective, non seulement historique, mais aussi d'aujourd'hui. Qu'est-ce que cela veut dire être antifasciste aujourd'hui en France ou en Russie ?
C'est pas tout à fait
la même chose. On peut aussi signaler à l'ami Alexandre que en France, on assiste à la criminalisation des mouvements antifascistes.
Ce qu'on a discuté aussi.
Voilà.
Oui, tout à fait. Et malheureusement, c'est une tendance, encore une fois, qui est institutionnalisée. En Russie comme aux États-Unis, Poutine comme Trump, aujourd'hui, s'oppose, cible les unités imaginaires, le mouvement antifasciste mondial, le mouvement antifasciste international, comme c'était le cas du mouvement LGBT en Russie, vous vous souvenez bien sûr, ce cas caricatural. Et donc ils inventent les organismes, et même en Russie il y avait des cas de la fabrication des cartes d'adhérence au mouvement antifasciste, juste pour incriminer aux personnes l'appartenance à un organisme constitué, et donc les décorer avec les termes de prison encore plus graves.
Tout à fait. Donc, la bourse du travail, c'était toute la journée.
Plusieurs heures, oui, voilà. Presque 4 heures, oui.
Et il y avait du monde ?
Oui, il y en avait une vingtaine, 25 de personnes. C'était pas très nombreux, mais ça a permis aussi une discussion de qualité. Tout le monde avait le temps pour discuter, on a laissé la discussion respirer, si on peut le dire. Des brèves interventions, un espace suffisant pour le débat. Et ce qui était très précieux dans ce sens-là, ça a été un dialogue direct, des comparaisons, des confrontations entre les expériences francophones, les expériences russophones. Il y avait aussi des références à l'Italie, à l'Allemagne. Donc ça a été très international.
D'accord. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur le personnage de Anastasia ? Alors, j'arrive pas à la prononcer correctement à la russe. Baburova.
Bravo, Baburova.
Baburova, voilà. Est-ce que tu peux nous dire, plus, nous la présenter, comment dire, 26 ans c'est jeune, mais elle a fait beaucoup.
Oui, 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 tout à fait. Elle était née dans une famille, on peut dire modeste, économiquement, socialement aussi. Ses parents qui habitaient en Crimée, et qui habitent toujours en Crimée, était comme elle le savait, elle cherchait de les protéger quand elle s'est lancée dans le militantisme. Donc elle ne racontait pas beaucoup à ses parents, et malheureusement c'est avec sa mort qu'ils ont appris l'ampleur de ses activités. Pourtant, elle a commencé comme une militante très radicale. Elle s'est engagée déjà très jeune dans le mouvement anarchiste et antifasciste. Elle a suivi plusieurs campagnes de la défense, de l'autodéfense des habitants des quartiers démunis, des personnes qui étaient discriminées, et à la recherche d'être plus utile, plus efficace dans un certain sens. Elle a été beaucoup inspirée par l'exemple de Stanislav Markelov, et je vous explique par quel biais. À l'époque, dans les années 2000, être avocat, ça a été considéré comme un métier complètement bourgeois et vendu.
Donc, par les jeunes, tu veux dire ?
Oui, par les jeunes, d'accord. Par les jeunes militants de gauche. Et là, le fait que Markelov était l'unique avocat de gauche qui a réussi de réunir dans sa figure, dans sa carrière, l'engagement très consistant et l'efficacité incroyable, parce qu'il a gagné des procès politiques, mais
tout à
vraiment
fait. Il gagnait ses procès. On le dira pas assez.
C'est ça, désespérant, quoi.
Mm-hmm. Des causes désespérées, oui. Il arrivait à les retourner.
C'est ça. Et donc, ça a donné à beaucoup de jeunes un exemple à suivre.
Et un espoir, surtout.
Et un espoir que être une figure publique, avoir une place dans la scène publique, c'est aussi porter efficacement les causes militantes, les causes de gauche. Et elle s'est inspirée de ça et elle s'est lancée dans le journalisme. Et donc, elle a écrit sur ça. Mmh. Elle a commencé sa carrière avec la publication sur les causes sociales.
Mmh. Parce qu'il y a deux métiers qui sont en danger. C'est journaliste, d'abord, et avocat, quand on est dans les droits de l'homme.
Et aujourd'hui, surtout en Russie, puisque vous le savez peut-être, les avocats aujourd'hui ne sont plus protégés.
Tout à fait.
Donc ils passent aux prisons comme leurs clients qu'ils défendent.
C'est même parce qu'ils défendent leurs clients qu'ils passent en prison.
Exactement.
Voilà. Donc, merci de nous avoir fait le portrait de
d'Anastasia.
Leur assassinat a été un électrochoc. Tu l'as bien décrit. Et comment la société civile vous a aidé? Parce qu'il n'y a pas que la Russie qui a décidé de se lever. Il y a aussi eu un mouvement de solidarité internationale autour de... Est-ce que tu peux en parler, peut-être?
Oui, tout à fait. Donc, pour vous rendre un peu plus du contexte, il est passé, je pense, 6 ou même 9 mois avant que les noms des assassins ont été révélés. Mmh. Avant, on ne savait pas qui étaient les assassins, de quel milieu, de quelle provenance.
Ah, parce qu'ils ont arrêté les assassins, c'était pas...
Ah oui, mais...
Moi, je débarque, c'était pas des hommes de main, c'était pas des spadassins.
C'est plus compliqué que ça, parce qu'il y a assassin et commanditaire. Donc, on va laisser Alexandre...
Dans le commanditaire, c'est rarement l'assassin. Mais l'assassin, c'est soit un type qu'on paye pour faire ça, oui. Soit un... Non, ça peut être aussi un type fanatique. De l'idéologie adverse, tu vois, oui. Ça existe aussi. Hein.
Tout à fait.
Moins souvent que les commandités, mais ça existe aussi.
C'est ça. Et en Russie, ce n'était pas un secret que soit la police corrompue, soit les néo-nazis étaient quand même couverts par les autorités. De différentes manières, ce n'est pas toujours le Kremlin qui ordonnait. Il n'était pas seulement un simple instrument de la volonté du Kremlin, mais il y avait un lien quand même très bien visible, parfois révélé même à volonté, de ce lien. Et de plus, ce qui a été déjà connu dans les réseaux militants, moins dans l'espace public, les services spéciaux cultivaient un modèle de ce qu'ils appelaient le nationalisme domestiqué. Cela veut dire qu'ils pouvaient sanctionner, ils pouvaient même financer les mouvements de l'extrême droite, à condition qu'ils tiennent dans le cadre, mm-hmm. qu'ils ne débordent pas. Et depuis longtemps, depuis le début des années 90, ça a été considéré comme un modèle plutôt efficace qui permettait à tenir et à contenir la violence de l'extrême droite. Il a failli, ce modèle il a failli plusieurs fois, et une des fois tragique, ça a été l'assassinat de Markel Babourova, mais là, ça, on a appris plus tard. Mm-hmm. Et à l'époque, on avait déjà des hypothèses. Donc, soit c'était les policiers ou les officiers de l'armée qui menaçaient régulièrement Markelov, qui cherchaient...
à l'intimider.
Ou intimider ou bloquer ses activités. Soit les autorités tchétchènes, puisqu'il était à la défense...
des adversaires de Kadyrov.
Voilà, bravo. Soit les néo-nazis qui étaient dans le régime de menaces constantes par Markelov. Mmh. Il envoyait presque chaque jour les menaces de mort. Il créait des campagnes entières d'intoxication autour de son nom, etc. etc. Mmh. Et donc, ça a été clair que ces trois forces possibles...
Se sont coalisées, peut-être.
Ou coalisées, ou en tout cas couverts, ou liées, ou même peut-être commandées par le Kremlin. Et donc, il n'y avait pas de doute que ce lien existait. Et c'était évident qu'il a fallu s'adresser non seulement à l'opinion publique russe, qui était déjà sous électrochoc, mais aussi à l'opinion
internationale,
pour signaler le problème, puisque le terror néo-nazi est passé à un autre niveau. Mmh. Et problématiser ce passage. Pourquoi c'était possible? Puisque les groupuscules néo-nazis sentaient la liberté et l'impunité...
De passer à l'acte.
De passer à l'acte. Et donc, c'est pourquoi, dès le début, ça a été très important de problématiser le lien des groupes néo-nazis avec le Kremlin.
Mais, excuse-moi, Alexandre, les néo-nazis russes auxquels tu fais allusion, qu'est-ce qu'ils demandent de différent ou de plus, ou de moins, mais enfin, de plus que le régime de Poutine?
Ça, c'est une belle question. À l'époque, ils ont exigé très clairement beaucoup plus que le régime de Poutine, puisque le régime de Poutine se prononçait centriste. Ça a été les années 2000. Mmh. Poutine est entré au pouvoir. Il a cherché à charmer tout le monde. Il a cherché à établir...
La balance.
La balance,
ah,
l'équilibre.
Le nini à la russe.
Voilà. Hein? Tout à fait.
Voilà. Et là, justement, ça a été une ligne de démarcation claire que Poutine et son entourage ont prononcé entre l'extrême droite et ce qu'ils appelaient eux-mêmes le conservatisme sain du parti du pouvoir. Aujourd'hui, il n'y a pas cette différence. ce que se passe.
Et il y a eu
peut-être
une porosité.
Non seulement, c'est une récupération très directe.
Porosité.
Oui.
Il y avait une porosité entre les deux.
Il y en avait dans 2014, à l'heure de la première guerre en Ukraine, et les récupérations, l'annexion de la Crimée. Mais cette porosité, ça n'existe déjà plus parce que le régime de Poutine n'a pas besoin des néo-nazis pour utiliser ce langage.
Guerrier,
chauviniste, nazi. Mmh. C'est maintenant un usage tout à fait habituel des médias qui sont associés au Kremlin.
Le mainstream.
Oui,
les médias mainstream.
Exactement. Et c'est ça la tragédie et à la fois le paradoxe de la récupération de ces mouvements, de ces idées des néo-nazis, puisqu'on a pensé avant que ce sera un processus de lente promotion de la montée des néo-nazis au pouvoir. Il y en a quelques cas exemplaires, par exemple un tel néo-nazi qui est devenu un journaliste, un tel néo-nazi qui est devenu policier. Mais le Kremlin a fait une opération.
Il n'y a pas eu de ministre encore.
Pas encore.
D'accord.
Mais ce qui était pire, ils ont repoussé les néo-nazis comme mouvement, mais ils ont récupéré leurs paroles.
Voilà, et leurs discours, et leurs actes.
Oui.
Voilà. Donc il y a eu porosité vraiment entre les deux milieux. Voilà.
Alors, je peux poser une question avant
la pause
musicale. En France, les gens ne savent absolument pas votre existence. Donc, c'est bien que vous soyez passé à la Bourse du Travail et à Radio Libertaire. J'espère à d'autres radios. Peut-être me trompais-je, non ?
Pas pour l'instant.
Bien. Et nous, ce qu'on connaît des exactions de Poutine, c'est surtout l'histoire de ce type qui a été emprisonné, qui était candidat, qui a été emprisonné quelques années ou quelques mois, quelques années, je crois, et qui a fini par mourir en prison.
Oui, Alexei Navalny.
Voilà.
Oui.
Alors, par rapport à votre mouvement, comment il se définissait, lui, ou comment vous le définissez plutôt ?
Dès le départ, Navalny a fait une carrière de militant civique, mais d'une tendance plutôt droitière. Il a été exclu même d'un organisme, d'un réseau démocratique auquel il appartenait, pour des propos et des vidéos qu'il a lancées qui étaient d'une
violence extrême.
D'une violence anti-migrant très, très, très explicite.
Anti-migrant.
Ah oui,
d'accord.
Anti-migrant, oui, il était anti-migrant.
Depuis, il a changé. Ça a été en 2008. Il a évolué, mais on voyait qu'il était toujours, il cherchait son public aussi dans les marches nationalistes. Il cherchait à collaborer avec l'extrême droite. Il n'abandonnait jamais les idées qu'il faut trouver les alliés dans le camp extrême droite. Y compris pour la force de ce camp, pour le fait qu'il a été quasiment légitimé par le régime de Poutine. Donc, il cherchait de trouver l'appui sur le radicalisme anti-poutinien dans le camp qui a été légitimé par le régime.
Tout à fait.
Et donc, il n'était jamais un véritable allié de la gauche ou du mouvement antifasciste, mais avec le temps, il est devenu, et surtout en tant que martyr politique,
voilà.
Il est devenu une figure emblématique.
Ça, c'est sûr que c'est pour les journalistes, c'est pain béni. Mais lui, dans le déroulement de sa vie, sur quoi est-ce qu'il se basait, ou plutôt pourquoi est-ce qu'il y a des migrants qui veulent venir en Russie ? Parce que c'est vrai que il y a très peu de gens en France qui migrent en Russie comme réfugiés politiques. Ça n'existe pas
c'est
trop.
C'est les républiques autour.
Non, non, mais attends, il va nous le dire.
Ah oui, pardon.
Non, non, mais Maréma a raison. Justement, si l'histoire coloniale de la France, c'est plutôt le modèle géographique des territoires séparés, et donc on voit les colonies comme la source principale qui nourrit cet imaginaire extrême droite. L'expansion territoriale de la Russie ne connaissait pas ses frontières naturelles comme les mers. Ça a été plutôt une expansion continue sur les territoires. Et là, justement, c'était l'annexion de tel ou tel territoire qui était peuplé par des ethnies différentes.
Qui sont devenues des minorités.
Oui, exactement. Qui ont été institutionnalisés.
Mais qui étaient souvent d'anciennes républiques socialistes.
Bravo.
C'est ça que je comprends
bravo,
pas.
Bravo, bravo.
Pourquoi est-ce qu'ils parlent de migrants?
Oui, mais c'est ça. C'est parce que derrière le projet soviétique se cache aussi un projet colonial.
Voilà.
Qui était encore pré-soviétique, mais qui a été repris par les soviétiques. Et c'est souvent les rapports entre les républiques n'étaient pas du tout égalitaires.
Tout à fait. Et ça, c'est un projet colonial depuis les tsars.
Oui.
Voilà. Donc, nous avons
la grande fait... Russie des tsars, c'est ça.
Voilà, tout à fait. Mmh. Et ça
c'est
n'a
le
pas
projet
changé.
De Poutine.
De tsars, mais aussi de Lénine, parce qu'il y avait des républiques qui bénéficiaient d'un rapport presque égalitaire, ou qui ont subi la dégradation au fil du temps, au fil des décennies. Mais il y avait des républiques, comme par exemple Tadjikistan ou certains autres, qui ont été considérés directement et tout de suite comme les soi-disant retardés, socialement retardés.
Ce qui n'est pas le cas de l'Ukraine, par exemple.
Non, voilà. Exactement.
Voilà. Bon. Sur ce, nous allons faire une pause.
Ah oui, c'est vrai.
Et nous allons revenir en deuxième partie sur le combat du comité. De Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM en région parisienne. Et sur le net, c'est radio-libertaire.org. Vous pouvez écouter en direct depuis la Russie, j'espère, dans le reste du monde sur radio-libertaire.org. Mais en région parisienne, c'est sur 89.4 FM. Nous sommes avec Alexandre, du partisan du comité du 19 juin 2009. Alors, je voudrais qu'on revienne sur la manifestation du 19 janvier, pardon, j'ai dit 19 mai, Oh, décidément, je suis fatiguée. Du 19 janvier, donc d'hier, qui se déroulait à Paris. Oui. Comment s'est-elle déroulée, cette manifestation?
Je pourrais dire que ça a été très bien, mais parce que c'est toujours un événement très émouvant. Soit pour les personnes qui se souviennent de Markelov, qui le connaissaient, de Anastasia Baburova, il y en a, des personnes qui habitent à Paris, des personnes qui le connaissaient, qui les connaissaient. Soit pour des personnes qui, pour des simples raisons d'appartenir à une autre génération, ne le connaissaient pas, mais comme on a déjà discuté, qui ont inspiré. Ces figures ont inspiré toute une génération ou plusieurs générations des militants. Ils les ont donné des exemples de courage, de l'engagement, de ce qu'on appelle en anglais commitment.
Tout à fait.
Et donc, on a discuté ça. Il y avait plusieurs témoignages très touchants sur connaître pour la première fois, entendre les noms, comprendre la cause, apprendre la période, parce que ce qui est aussi assez choquant pour des personnes qui ont vécu ces années, et tous ces tourments de la Russie qui continuait à évoluer vers le capitalisme, d'abord sauvage, puis réglementé de plus en plus, et aujourd'hui, maintenant, ce n'est plus le capitalisme libéral qui était dans les années 2000.
C'est un capitalisme de prédation.
Oui, même aujourd'hui même, c'est le nouveau mercantilisme. Ça, c'est que de plus en plus ressenti dans les prétentions de récupérer les territoires, d'avoir la main sur les ressources naturelles, de gérer la population comme le bétail, et aussi d'accumuler l'or métallique, ce qui est une folie historique et archaïque assez considérable. Mais on l'observe aujourd'hui en Russie comme si c'est le 18e siècle. Mmh. Et donc, ça, tous ces tourments, tous ces plis chronologiques de l'évolution du régime russe font assez facilement oublier ce que s'est passé dans les étapes, dans les phases précédentes. Mm-hmm. Et là, pour une partie des participants de ces manifestations, c'est chaque année, ça se voit, c'est une découverte que le mouvement antifasciste existait déjà dans les années 2000, que le mouvement féministe existait déjà dans les années 2000, etc., etc. Donc, c'est une belle découverte. Il y a aussi quelques témoignages, quelques productions. Par exemple, il existe un documentaire qui a été fait juste après les événements, déjà au moment où les noms des assassins ont été révélés. Oui. Et un documentaliste, Valérie Balayan, a créé un film « Aimez-moi, s'il vous plaît », qui était une ligne de la lettre d'Anastasia à ses parents. Et là, justement, il montre peut-être, c'est pas une grande production dans le sens très réfléchi sur le mouvement antifasciste, etc. Donc c'est pas très politique. C'est plutôt une fresque qui démontre la propagation de cette culture néo-nazie avec beaucoup des extraits des vidéos des néo-nazis qui étaient remplissait de manière éblouissante les réseaux sociaux à l'époque, avec des témoignages des parents qui sont tout à fait choqués, époustouflés, à la fois fiers de leur fille, qu'elle redécouvre avec son assassinat. Et là, justement, projeter ce film, projeter ce documentaire, discuter dans la rue, à la place, le sens de ces événements, de cette époque, de ces engagements, c'est toujours un moment très unificateur, y compris pour les jeunes militants francophones qui sont toujours présents et qui découvrent que finalement, il y a encore une fois les points communs, les dialogues à continuer entre les milieux et les générations.
Oui. Markelov est toujours fédérateur. Madame Anastasia, elle est toujours fédératrice. Et c'est vrai que si, quand nous avons pris au groupe Louis Michel la décision de vous inviter, on a déprogrammé une émission pour vous.
Je vous remercie.
C'est parce que justement, c'est fédérateur et on ne peut pas ne pas répondre à l'appel qui a été lancé par le comité qui s'occupe de Azat, parce que votre appel a été relayé sur le blog de Mediapart par le collectif Solidarité Free Azat.
Tout à fait.
Voilà. Et donc le titre, c'était « Droit en Russie, antifascisme dans le monde, 2. Appel à rassemblement le 19 janvier ». Là, on a lu ça, on s'est dit « Bon, on va les inviter ». Et ça tombe bien, on est le 20, il y a une émission le 20, on va déprogrammer gentiment la personne qui a accepté de revenir plus tard, et on va les prendre pour faire écho à l'actualité. Et en plus de savoir que vous n'avez été reçu nulle part autre que sur Radio Libertaire, quelque part on se sent légitime et on se sent content, parce que à Radio Libertaire, on s'efforce de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas, à qui on ne la donne pas.
Je vous en remercie. C'était très apprécié par toutes les personnes qui étaient impliquées dans l'organisation. Et aussi par notamment le groupe, l'association Solidarité Friazat qui a relayé notre appel.
Voilà.
Ils sont les alliés de toujours, dès le début, des causes qui sont portées en Russie ou par les milieux exilés russophones. Qui concerne les répressions, la défense des prisonniers politiques. Et donc évidemment, ils ne pouvaient pas passer à côté de cette cause fédératrice du milieu de gauche russophone, mais pas que. Justement, avec les années, il fait déjà depuis 17 ans que ces événements tragiques ont eu lieu, désormais, beaucoup de militants de gauche antifascistes dans le monde sont au courant de cette cause. Donc, le 19 janvier devient plus en plus une journée internationale de solidarité antifasciste.
Ça, on l'a vu, parce qu'on a préparé l'émission avec François et Jean-Michel, qui ne peut pas être là aujourd'hui. Il est remplacé chaleureusement et avantageusement et formidablement par Frédéric, du groupe Commune de Paris, et qui anime en temps normal le Cri du Peuple une fois par mois sur Radio Libertaire et toutes les semaines au fil des pages. Donc, on a constaté que quand on tape dans les moteurs de recherche 19 janvier, plein d'occurrences apparaissaient. Donc on s'est dit, bon, ils font du bon travail, on va essayer de leur donner une tribune, surtout que Anastasia était anarchiste et vous êtes sur une radio anarchiste. Et on n'aurait pas voulu passer à côté d'un tel événement, parce que c'est un événement à Paris que d'avoir des gens de toute tendance, antifascistes principalement, qui s'opposent au Kremlin et qui se réunissent et qui arrivent à porter la voix des opposants, parce que on a surtout le discours dominant du Kremlin.
Oui, et encore une fois, un grand remerciement de la part de tous ceux et celles qui résistent et qui s'opposent à la propagande du Kremlin, parce qu'on sait très bien, c'est pas un secret, il y a pas mal de, justement, de l'efficacité de ce discours charmeur lancé par le Kremlin, et une partie de la gauche européenne est convaincue que le régime du Kremlin est un véritable régime antifasciste. Ce qui est assez une honte en vue du marxisme et de les capacités analytiques de ces milieux, des capacités critiques d'analyser non seulement les discours, mais aussi des faits.
Tout à fait. Est-ce que, Alexandre, tu pourrais présenter le mouvement antifasciste qui résiste sur place et qui est ici, un peu partout en Occident? Parce qu'on a vu ceux d'Italie, sur Internet, bien sûr. Hein. On a vu tout ce qui était dit sur le 19 janvier, et on s'est dit, waouh! Vraiment, ça bouge.
Oui.
Alors, quel est le profil type d'un opposant antifasciste en Russie?
Il y en a plusieurs. Il y en avait déjà à l'époque, puisque le mouvement antifasciste qui s'est constitué dans les années 2000, comme j'ai dit, ça a commencé par la garde des rues, l'autoprotection, l'autodéfense de cette agression néo-nazie, nationaliste, chauviniste, qui se propageait non seulement au niveau des quarantenaires, mais aussi au milieu des adolescents. Mmh. Donc, ça a été de plus en plus à la mode de porter les croix gammées, de signer quelque chose avec le nom de Hitler, etc. Donc, à la fois, ça a été très paradoxal.
Oui, c'était ça.
Très paradoxal dans le pays qui combattait
le nazisme. Ils sont tous morts, les gens qui ont connu l'invasion allemande.
Mais non,
ils ne sont pas tous morts.
Ils n'étaient pas tous morts, mais ils étaient effondrés. Ils étaient effondrés de voir la jeunesse...
D'un côté, oui. De l'autre côté, ça a été le moment, justement, les années 2000, ça a été le moment de la croissance économique, et ça a été le moment de la création du marché des styles de vie. Et donc, comme ça arrive assez souvent, les populations qui souffraient le plus, puisque la croissance n'est pas pour tous.
Non.
Il y avait une séparation, il y avait une ségrégation sociale qui était de plus en plus aiguë, qui accompagnait cette croissance. Et on voyait bien que les quartiers HLM, les petites villes, etc., étaient de plus en plus atteints par le ressentiment. Et donc, la croissance et les espérances de réussir d'un côté, le ressentiment qui est ciblé assez souvent les parents comme la génération des perdants dans ce jeu économique, a généré la constitution des styles de vie qui étaient basés beaucoup sur la transgression, y compris la transgression politique, la transgression envers ou au profit de néonazisme. Mm-hmm. Et donc ça a été utilisé aussi comme un remplacement. On le sait très bien, c'est connu depuis l'analyse marxiste de l'antisémitisme. Oui. L'antisémitisme, c'est toujours en remplaçant de la haine de classe. Oui. Et donc, trouver un migrant, trouver quelqu'un qui est différent, le battre dans la rue, il est devenu un moyen de...
S'affirmer.
Voilà, de s'affirmer pour les descendants des familles perdantes. Oui. Et les premiers antifascistes, ça a été ça. Ils ont tenté de faire le blocage de ces tendances dans la rue, puisque la police ne faisait rien contre ça.
La police laissait faire, quand elle ne donnait pas un coup de main, carrément.
Et ça a été le profil donc d'antifasciste, et ce qui a donné un peu, je pense aussi en France, l'image iconique de l'antifasciste. C'est un jeune, dynamique, un peu musclé, qui a peut-être qui a le courage de s'engager dans la lutte du corps.
Oui, une femme, Anastasia, ou une femme.
Non mais et comme ça, tu parles en France là.
Non, je parle de la
Russie. En Russie, oui, surtout.
En Russie, les femmes.
Oui,
il parlait pas des femmes.
Non, mais je veux dire de l'image
du type de l'antifa, disons symbolique,
d'accord.
Quoi,
oui.
L'antifa pur antifa,
oui.
Qui serait, ils n'étaient pas tous des gens musclés, hein, faut pas
non.
croire. Hein, il y avait des vieux aussi.
Non, mais c'est clair. Je veux dire,
il y avait des femmes. Ouais.
C'est ce que je dis. Donc Anastasia.
Oui. Voilà. Mais justement, quelques ans a suffi pour que ça constitue un milieu différent, puisque les premières rencontres avec Stanislav Markelov, ça a été aussi le milieu des années 2000.
Oui.
Il est allé à sauver, dans un certain sens, les jeunes antifascistes, on peut déborder. Il y a plusieurs témoignages, y compris un qui était partagé hier lors de la manifestation, que découvrir qu'on peut combattre avec des moyens légaux, légaux, et non seulement avec les coups de poing,
voilà.
Ça a été très important pour le milieu antifasciste pour entrer dans un régime plus réflexif. Ce qu'on peut faire et comment on peut bloquer cette propagation de la violence ultra-droite, extrême droite.
Et pour ça, Markelov, c'était un héros. Parce qu'il a montré que le système, on peut utiliser le système contre
absolument.
M. Poutine.
Absolument.
Enfin, et quelque part.
Tant que Poutine ou le décideur de n'importe quel pays que ce fût respecte sa propre loi.
Ce qui n'est pas le cas,
par exemple, dans des pays anciennement alliés comme les USA, par exemple.
Alors, on a un cinéaste qui a fait un excellent documentaire pour montrer comment les jeunes sont instrumentalisés dans la guerre.
Mmh.
Il a pour titre Monsieur Nobody contre Monsieur Poutine.
Mm-hmm.
Et ça, il fait le travail de montrer qu'avec une caméra, on peut devenir dangereux. Et c'est formidable. Ça fait penser à la méthode de Markelov.
Oui.
Voilà.
Markelov était plutôt du côté de la procédure. On voit que dans le film, Mr. Nobody cherche justement à filmer un peu plus par rapport au permis.
Voilà.
Et c'est ça ce qui crée l'effet de dénonciateur. Là, Markelov, au contraire, sa méthode était très différente. Ce qu'il faisait, il cherchait d'exclure les témoignages ou les documents qui étaient un peu
branlants.
Oui, c'est ça, faible, redoutable, etc. Et là, il se basait sur le pur souche qui le permettait de suivre le protocole, la procédure, et parfois il utilisait très, de manière très sophistiquée, comme tous les juristes du monde, les failles de la procédure, le parquet qui a fait une erreur, la police qui ne s'est pas fournie de l'autorisation pour décomposer l'accusation. Mm-hmm. Et donc, une fois, je lui ai posé une question, mais comment tu réussis à gagner les causes perdues? Il a dit, mais tu sais, paradoxalement, les juges même ne connaissent pas suffisamment la loi.
Excellent.
Donc, ce que je fais, je suis très rigoureusement la procédure, et à la fin du procès, ils n'ont rien faire d'autre que accepter les décisions que je les impose.
Ouais. Ouais. Excellent. Super. Excellent. Vraiment, bravo. Merci pour ce témoignage. Donc, on va...
Moi, j'ai une question, si ça ne t'embête pas, prie. Alexandre. Toi-même, c'est une question à tiroir, parce que tu es venu en France pour cette réunion où tu résides en France, toi.
Je réside en France depuis 8 ans.
D'accord. Est-ce que tu peux craindre d'être ennuyé au niveau des passeports, par exemple, ou...
Je ne pense pas, pas personnellement, pas en ce moment-là, non. Disons que je suis en règle en France et ça fait depuis longtemps que je n'ai pas eu de soucis à ce niveau-là. Mais non, c'est vrai.
Je parlais au niveau de ta famille qui est restée peut-être en Russie.
C'est
plutôt de ça
difficile.
Que je te parle. Hein. Bien oui, sûr, d'accord. Je pense qu'en France, on n'est pas encore tout à fait, mais enfin, ça ne va pas tarder, mais on n'est pas encore tout à fait pourri à ce point-là. Mais en Russie, je ne sais pas, peut-être que. Certainement que tu es fiché, quoi.
Ah oui,
archi fiché.
Ah oui, oui, hein? Même. Il y a un cas légal contre moi, mais c'est un statut ambigu, puisque j'ai publié, déjà en fin 2022, avec quelques autres personnes, on a publié un recueil de textes qui analysait les causes et les perspectives de cette montée belliqueuse de la... du régime Poutine, de sa transformation. Et là, justement, la publication a eu un écho. Et il a eu aussi un relais politique de haut niveau. Il y avait même des députés, je ne dis pas même extrême droite, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu le bon sens. Mais ça a été un député, par exemple, qui a participé aux assassinats. Il était un ancien du KGB, de FSB, et qui a participé à des assassinats politiques, qui les dirigeait, et qui aujourd'hui joue le relais de ce type de plantes qui arrivent très rapidement au parquet. Et donc, il a signé un appel pour que notre collection soit condamnée par la justice russe. Comme ça a été un recueil d'analyse, une publication qui n'était pas directement politique, genre à bas Poutine, etc. Si, quand même, il y en avait
mais
des textes
politique,
aussi comme ça.
Forcément, mais...
Si, vous avez raison, mais je veux dire, il y a des...
C'était pas agressif.
Si, même parfois agressif, ah bon. Mais en tout cas, c'était pas médiatique. C'est-à-dire, aujourd'hui, le régime russe est quand même réagi beaucoup plus sur des publications médiatiques qui arrivent directement au public moins intellectuel, moins concerné par les nuances, etc. Ils ont peur de contre-pouvoir ou contre-discours qui s'adresse à la population, à la même population que le régime Poutine trouve comme le point d'appui. Et donc là, on a ciblé directement, on a ciblé très très clairement un autre public plus cultivé qui gère des références académiques, etc. Ou culturelles. Et là, ça a été assez ambigu puisque le parquet a fait sa demande, le tribunal a eu lieu sans avoir lieu. Ça a été paradoxal puisque ça a été le jour annoncé du tribunal, mais une fois que notre camarade s'est rendu là-bas, il a trouvé qu'il n'y a pas de juge dans la chambre, il n'y avait pas le juge dans la salle, et tout le procès avait lieu derrière les portes fermées de cette petite chambre de juge.
Ah oui, d'accord.
Et là,
à huis clos, tu veux dire?
À huis clos, mais même pas...
Même pas, il n'y avait pas de public.
Il n'y avait pas de public, il n'attendait pas de public, il ne voulait pas...
Non, il n'y avait même pas le juge.
Non, c'était pas ça. Le public était admis, mais le juge même était très, très, très étonné qu'il y ait du public. Et donc, ils ont décidé quelque chose, mais le juge même n'est pas sorti pour rencontrer le public. Donc, il a décidé dans sa chambre, on ne peut pas dire privé, dans son bureau, voilà. Et là, le jugement a été très bizarre, puisque... Si le parquet nous a accusés de faire les actes en Russie, c'est pas terrorisme, c'est extrémisme. Donc les actes d'extrémisme et de la propagande ou quelque chose comme
subversive
contre l'armée russe, le juge a décidé autrement. Il nous a accusés de diffuser l'information fausse, non extrémiste, dont la fausse information médicale ou la pornographie.
Ah.
Donc vous voyez, c'est très ambigu, on ne comprend même pas ce que cela veut dire. Ça peut être aussi un jeu de nuances que le juge a considéré l'accusation assez...
Frontale
ou absurde, incompatible avec la
son
cause.
Statut, ouais.
Voilà, et donc ça a été plutôt peut-être un coup de grâce par rapport à ces députés. Ça, on ne comprend pas trop ces jeux-là, et donc je sais qu'il y a une cause légale contre moi. Si je reviens assez probablement à la frontière, je serai interpellé à cause de cette
publication.
Tu risques d'être interpellé, quand même, ou tu es sûr d'être interpellé?
Je risque. Parce qu'en Russie, dans ce moment-là, il y a toute une vague d'accusations qui sont tellement mal gérées qu'on ne comprend pas les conséquences.
C'est comme le temps de l'archipel du Goulag, c'est-à-dire que tout peut déraper très rapidement.
Ou bien c'est comme peut-être une parallèle encore plus proche, comme en Turquie d'Erdogan.
Oui.
Puisque l'arbitraire fait aussi la technologie.
Tout à
fait. Et ça, on sait très bien.
Ouais. D'accord. Bon, donc.
Alors, excuse-moi, tout à l'heure, tu as un peu esquivé quand je t'ai parlé de ta famille. Est-ce que tu veux qu'on n'en parle pas?
Je voudrais peut-être éviter ce sujet.
D'accord.
Pas
okay.
Parce que.
Entendu.
Oui.
Non, on n'est pas là pour le mettre en danger.
D'accord.
Il a le courage de venir. Voilà. Il a le courage de venir expliquer son combat.
Merci. Merci, Mariama, d'avoir compris ma question.
Merci François. Nous allons faire une pause, Frédéric, et nous allons revenir sur le portrait de tous ceux qui ont résisté et qui ne sont plus là. Ça va de Madame
Politkovskaya.
Voilà, entre autres.
Oui.
Dans la troisième partie.
Et Timur Kacharava, entre autres, un jeune antifasciste qui était l'un des premiers tué par les néo-nazis en 2005.
Voilà.
Et l'extrait musical qu'on va écouter maintenant. C'est de lui, c'est son groupe qui a été créé dans le milieu des années 2000. Et donc, il faisait le punk hardcore. On va écouter.
Il faisait le quoi?
Punk hardcore.
Punk hardcore.
Ah, le punk hardcore, d'accord.
Et on va écouter une production, disons, russe antifasciste de l'époque.
Super.
Chers auditeurs,
vous êtes à l'écoute de Pas de quartier.
L'émission de Groupe Plus, Michel, sur Radio Libertaire, 89.4 FM, en région parisienne, et sur le
dans
net.
Dans le monde entier, sur le net.
Radio-libertaire.org. Avec Alexandre, pour la dernière partie, et François aussi, avec son humour. Alors, nous allons faire le portrait de tous ceux qui ont résisté. Et je pense à cette femme, cette très grande journaliste, dont j'ai du mal à prononcer le nom correctement, Anna Politkovskaya.
Politkovskaya, oui.
Voilà, je vais y arriver. Assassinée en 2006.
Oui.
Et elle était très critique du manque d'empressement de ses collègues à relayer les informations sur ce qui se passait en Russie et dans le reste du monde. Elle disait d'ailleurs même de certains de ses collègues journalistes que c'était une troupe de cirque chargée de distraire l'opinion. Ce qui est très dur, mais très juste
très
pour certains.
Très dur pour le cirque.
Très dur pour le cirque, tout à fait. Mais très juste pour certains journalistes qui sont plutôt des animateurs qu'autre chose. Voilà. Donc, est-ce qu'on pourrait présenter son portrait, Alexandre, très rapidement ?
Oui. Effectivement, ça a été une critique réciproque, puisque Politkovskaya était un journaliste d'enquête. Et elle faisait des sorties très courageuses pour la Tchétchénie, dans les zones de conflit. Non pour faire les reportages sensationnels, mais surtout pour témoigner, pour raconter les abus du pouvoir, la violence exercée par l'armée porteuse du mandat légitime. Et là, justement, elle a très rapidement accueilli une hostilité de la part d'une partie des collègues qui le considéraient comme une traître, comme une troubleuse du
calme. Fait.
Voilà, quelqu'un, quelqu'une qui crée plutôt des problèmes pour le corps journalistique que un bon consensus avec les autorités. Et donc ça a été clair que elle ne voulait pas plaire à des collègues. Elle était une porteuse de causes, parfois assez brusque, parfois assez conflictuelle aussi. Mais ce qu'elle a fait pour dévoiler, pour dénoncer certaines formes de la violence et de l'abus du pouvoir, c'est inestimable.
Oui. Alors, est-ce que tu voudrais présenter d'autres personnes qui ont résisté et qui malheureusement sont décédées ? Donc, revenons sur le portrait du jeune punk, du groupe punk Hardcore.
Oui, tout à fait. L'assassinat de Stanislav Markelov et Anastasia Baburova, c'est donc 2009. Mais bien avant, on voyait déjà, et non seulement avec Anna Politkovskaya, une série d'assassinats politiques qui étaient de deux natures différentes. Donc l'assassinat de Politkovskaya, on le sait qu'il a été commandé par des autorités. On ne sait pas exactement du Kremlin ou des autorités tchétchènes, mais c'est très clair qu'il y avait des commanditeurs très haut placés. D'autres types d'assassinats a été déjà sur place en 2004, donc deux ans avant l'assassinat de Politkovskaya, et j'ai mentionné Timur Kacharava, qui était le premier antifasciste dont le nom a été a été connu très largement, puisque ça a été un jeune étudiant de tendance antifasciste, musicien dont des œuvres vous avez écoutées, qui était juste dans la ville, qui faisait aussi une initiative qui est connue en France, Food and Bombs, donc la distribution de la nourriture auprès des personnes sans abri ou de ceux qui sont démunis. Et food not bombs, c'est au lieu de la guerre, on va distribuer
la nourriture. Ça c'était très
subversif.
Voilà, merci.
Oui, tout à fait.
Je vais y arriver.
Tout à fait, et à la fois très pacifique. Donc,
oui.
Il était aussi vegan, il était aussi pro-animaux. C'était la nouvelle génération de l'antifascisme qui était aussi très internationalisé. Et donc un jour, il était avec son copain devant une librairie, un groupe de jeunes néo-nazis arrive, ils se reconnaissent aussi sur le code vestimentaire, et là, c'était pareil au cas de Clément Méric en France,
oui.
En 2013, donc en 2005 déjà, ils poignardent les néo-nazis poignardent Timur à plusieurs reprises. Il blesse aussi son copain qui a réussi de s'échapper. Il est passé ensuite plusieurs mois à l'hôpital. Et là, justement, Timur est mort. Et là, il devient une figure symbolique de cette violence néo-nazie, mais qui n'est pas encore liée au Kremlin. Parce qu'on sait qu'il y avait des groupes néo-nazis qui débordaient en ce moment-là. Et on voyait bien que l'antagonisme des fascistes, des néo-nazis, des antifas dans les rues portait à un déséquilibre très fort, puisque avant ça a été une possibilité, même un code légitime de se battre, et ça a été le moment de passage aux assassinats de la part des néo-nazis.
Ben oui, parce que quelque part les autorités leur ont donné le cadre et leur ont donné l'imprimature pour le faire.
Ce qu'on a observé, ce qu'on a constaté ensuite, dans le cadre de ce modèle de nationalisme domestiqué.
Voilà.
Oui, et là, à partir de ce moment-là, on voit l'arrivée de la vague de la violence extrême des néo-nazis qui tuent les immigrés dans les rues, qui agressent les femmes, battent et qui assassinent les personnes sans domicile, des sans-abri. Et ça, ce sont des cas beaucoup moins rapportés parce que, à la différence de la jeune public étudiante ou d'autres, ce sont des personnes qui vivent dans l'ombre de l'ordre social. Et là, on ne sait pas même combien de personnes les néo-nazis ont tuées ou mutilées. Et ça arrive à une tendance qu'il y a des dizaines et parfois, par mois, des centaines de cas d'agression des néo-nazis. Il y a des centres, des ONG de monitorage, comme SOVA à l'époque, qui font le travail de raconter ces cas, y compris dans la presse régionale, et de les remettre sous une forme publique. Et ça, vous m'avez posé une question sur le profil d'antifasciste. Donc ce que on voit arriver dans l'espace public russe, russophone, c'est qu'à côté d'une figure de combattant de rue, par exemple la figure de Timur Kacharava, c'est déjà pas une street fighter musclée. C'est plutôt un étudiant, c'est un jeune de la nouvelle culture, des nouvelles tendances, qui est convaincu, qui a ses valeurs, qui a ses convictions et qui est tué pour ses convictions et pas parce qu'il a combattu tel ou tel néo-nazi dans la rue. Ensuite, il arrive plusieurs autres personnes dans cet univers antifasciste, y compris notamment les personnes de ces ONG qui sont plutôt de valeurs libérales, des ONG qui font le monitorage et qui pensent qui ressentent que malgré la liberté de l'expression, ce n'est pas le modèle américain où le néo-nazisme n'est pas puni de parole mais de l'acte. Et donc il y a des libéraux russes qui pensaient déjà à l'époque qu'il faut aussi prévenir la parole, puisque la parole peut porter aux actes, ce qu'on observe dans le milieu fin des années 2000.
Tout à fait. Alors, donc, on a parlé, et on en arrive à ceux qui résistent et qui sont toujours vivants.
Oui.
Je pense à Azat.
Oui. Heureusement qu'il y en a encore.
Bah oui, merci François.
Ah mon pauvre Alexandre. Bon.
Oui. Azat, oui. Le mathématicien Azat.
Oui.
Est-ce qu'on peut le présenter pour ceux qui ne connaîtraient pas?
Tout à fait.
Et notamment son comité de soutien, sans qui tu ne serais pas là.
Tout à fait. Azat Miftakhov, c'est un jeune mathématicien. Il était étudiant dans le début des années 2020, qui a participé à des réseaux anarchistes et antifascistes. Et il a été accusé de participer à une violence, à un acte violent contre l'ordre politique, contre l'autorité politique. Et donc, en quoi consistait l'accusation contre Azat? Qu'il a cassé une fenêtre dans le bâtiment appartenant au parti du pouvoir Russie Unie. Point. Donc, déjà, la fenêtre brisée, ce n'est pas la première fois qu'il arrive dans l'histoire récente de l'antifascisme russophone, puisqu'en 2010, ça a été exactement la même cause, les fenêtres brisées d'un bâtiment d'administration locale, qui a été à l'origine de la répression du mouvement antifasciste entier. Vous vous souvenez peut-être de l'affaire de la forêt de Khimki.
Oui.
Qui a été aussi un espace où Vinci, l'entreprise francophone, a été engagée, une entreprise de construction. Et donc, ça a été une question de de la destruction d'une partie de la forêt, mm-hmm. et l'administration de la région a impliqué les néo-nazis pour défendre la construction,
le chantier, oui.
le chantier contre la population locale.
Oui, parce que la population locale a été, on lui a pris des parcelles communes, elle a été expropriée de force.
Oui, tout à fait.
Pour l'entreprise Vinci. Elle s'est révoltée, c'est ce qui est légitime. Et donc, les néo-nazis ont été appelés en renfort pour les tabasser
oui.
et pour leur faire rentrer leurs revendications dans la gorge.
Et les antifascistes sont entrés dans le jeu. Ils sont partis d'un concert à Moscou en 2010.
Voilà.
Ils sont arrivés à la forêt. Et ce qu'ils ont fait, de la forêt, ils ont fait une marche vers le centre-ville de Khimki. C'est une petite ville à côté de Moscou. Et donc, ils ont... fait quelques feux, quelques gestes bruyantes, ils ont mis les graffitis, ils ont brisé quelques fenêtres. Et donc les fenêtres brisées, c'est vraiment un motif récurrent de l'attente au pouvoir, à l'autorité en Russie. Azad, malheureusement, fait partie de cette liste. Il a été accusé d'avoir brisé la fenêtre.
Je comprends plus là, j'ai pas suivi.
Alors,
qui est-ce qui a brisé
on s'en fiche. C'est un motif.
Ah non, je m'en fiche pas parce que.
On s'en fiche. C'est un motif pour les poursuivre.
Et pour accuser de presque de la trahison, presque voilà. de l'attente à l'autorité, qui consiste à briser la fenêtre.
Voilà, c'est tout.
Et Azad donc a été considéré comme un criminel de haut niveau puisqu'il a été accusé d'avoir brisé la fenêtre d'un bâtiment administratif.
D'accord, oui, bon.
Ça... Voilà. Et c'est donc, il a été condamné à 2 ans de prison. Il a passé ces 2 ans emprisonné. Et à la fin, dès qu'il est sorti, il a été de nouveau accusé d'avoir partagé avec un autre prisonnier ses avis sur la guerre, puisqu'il a été arrêté en 2021. Donc, il était sorti en 2023, ou il aurait dû sortir en 2023. Toutes ces pièces forgées, on était déjà très mal placés. On comprend très bien que tout a été fabriqué sur des témoignages incroyables et invraisemblables. Et donc, pour faire la vengeance, y compris de la campagne publique de sa défense, ce que fait soit le parquet, soit le service secret, ça on ne sait pas très bien, mais...
Qu'ils s'entendent bien entre les deux.
Absolument. Donc, ils ont monté un autre cas... à lui accuser,
un autre dossier,
lui accuser de la propagande contre l'armée russe.
Par rapport à la guerre en Ukraine.
À la guerre en Ukraine, et qu'il a partagé son avis sur l'injustice de cette guerre avec quelqu'un avec qui il partageait la cellule. Il est aujourd'hui encore une fois dans la prison. Il est incarcéré régulièrement, il est placé dans la...
Les quartiers isolés.
Dans le quartier isolé, merci. Il est assez souvent menacé par d'autres prisonniers que l'administration utilise comme une moyenne de pression, comme un levier de pression des prisonniers politiques.
Voilà, alors ça date... Tous ceux qui ont lu l'archipel du Goulag savent que les prisonniers politiques sont menacés et tabassés et passés par voie de fait par les criminels de droit commun. C'est récurrent. Il y a un excellent livre de Solzhenitsyn, La maison de Matryona, qui est une série de nouvelles qui montre bien ça.
Oui.
Pour ceux qui n'ont pas le temps de lire les trois volumes de l'archipel du Goulag, La maison de Matryona, les nouvelles parlent de ça aussi.
Merci pour cette référence. C'est vrai que ça vaut la peine de comprendre, ça vaut la peine de le lire pour comprendre un peu mieux le contexte. Évidemment, le contexte évolue, mais les souffrances que les personnes vivent, y compris au niveau de l'enquête, au moment de l'enquête, aujourd'hui, il y a des méthodes qui sont utilisées, y compris contre les antifascistes. Il y a des nouveaux cas, comme par exemple Antifa United, un groupe sur les réseaux sociaux qui partageait les propos antifascistes. Le parquet a demandé 8 ans de prison pour les participants d'un groupe sur les réseaux sociaux. Et donc, pour extorquer l'aveu de ces personnes-là, qu'ils s'auto-accusent des graves crimes, le parquet, l'enquête utilise assez souvent l'électrochoc, le tabassement, la torture, y compris morale, mais qui est combinée avec les postures
tortures.
Impossibles physiques, etc.
Ouais.
Donc pendant des heures et des heures. Et c'est pas nouveau, mais c'est de plus en plus répandu, puisqu'il y a aussi une partie de ce corps de force qui revient de la guerre en Ukraine, mmh. où ils utilisent ces méthodes de manière banalisée.
Alors, ils sont aussi menacés de colonies pénitentiaires. Ça, c'est la pire des menaces. Et la femme de M. Azat se bat pour éviter la colonie pénitentiaire. Mais quelque part, la prison actuelle où il est, c'est moins pire que l'envoyer en colonie pénitentiaire. De tous les ouvrages, même du temps de Tchekhov, quand il a fait son ouvrage sur Sakhaline, la colonie pénitentiaire, c'est ce qu'il y a de pire dans le système carcéral russe. Je ne dis pas soviétique, russe. Parce que c'est les Russes qui sont à la manœuvre. Et de voir que déjà les conditions sont pénibles, mais d'imaginer que ce sera pire s'il est transféré là-bas, d'où cette troisième partie pour parler de ce dossier et les autres dossiers pour essayer d'aider l'entourage à obtenir leur libération.
Oui, tout à fait, c'est essentiel, puisque une fois que la personne a connu un certain niveau de reconnaissance internationale, ça peut protéger,
voilà.
Même si aujourd'hui il y a tout un débat dans le milieu légal, et notamment entre les avocats, si l'attention portée par les organismes internationaux ne peut nuire la sécurité de ces personnes.
Ah ben, c'est sûr que c'est complètement ambigu.
C'est ambigu, mais en tout cas, on le sait très bien, et ça a été plusieurs fois confirmé par les campagnes. Une fois que le niveau de la campagne de solidarité internationale atteint un certain niveau, c'est très difficile à passer les crimes, l'étouffement, même la mutilation ou l'assassinat dans la prison sous le silence. Et là, c'est très important, puisque j'ai eu des témoignages de certains antifascistes qui étaient incarcérés, évidemment, dans une autre époque, dans les années 2010, qui ont dit que dans cette situation-là où l'administration pénitentiaire a utilisé les autres emprisonnés, les autres détenus de droit commun pour les menacer, la campagne de solidarité qui arrivait par l'extérieur changeait complètement le destin. Ils n'osaient plus à utiliser les menaces et même à mutiler les personnes qui étaient déjà dans une situation très fragilisée. Mmh. Donc je trouve que les précautions peuvent être faites tout au départ dans certains cas et de certaines causes, mais une fois que la personne est déjà arrivée d'être connue, il faut pousser, il faut donner le soutien maximal, y compris international, parce que c'est ça ce qui sauve les vies.
Ce que tu dis là, c'est valable pour tous les pays du monde, hein?
Tous les pays du monde.
Je pense que oui.
Alors, aujourd'hui, nous sommes sur la Russie. Nous voulons porter à la connaissance de notre public et de tous les publics qui écouteront en podcast cette émission, la situation des opposants au Kremlin. Parce que là, le point commun de tous ces dossiers, c'est leur opposition au Kremlin.
Oui, certainement. L'opposition au Kremlin qui n'était pas forcément tout au départ et originellement conçue comme telle,
voilà.
Mais qui est devenue, puisque le Kremlin est aujourd'hui, comme on a déjà discuté au départ, au début de notre émission, qui est le porteur de l'agenda complètement néo-nazi. Et ça, c'est indéniable. C'est-à-dire, ils puisent ces sources pour alimenter l'agression militaire, mais aussi pour alimenter les discours contre l'Europe, contre la gauche qui ne croit pas les charmes, les propos charmeurs du Kremlin. Et là, justement, c'est clair qu'aujourd'hui, il existe tout un mouvement, tout un réseau, tout un milieu des opposants antifascistes de gauche qui sont à la fois très convaincus de la valeur de la collaboration internationale et qui sont les opposants très clairs du Kremlin, de ce régime qui est devenu néo-nazi et néo-mercantiliste.
Est-ce qu'il ne l'était pas à la base? Il y avait un noyau, il y avait déjà des germes. Quand on regarde l'excellent documentaire sur M. Poutine qui a été diffusé par Arte il y a 3 ans, mm-hmm. qui montre l'ascension de M. Poutine, KGB, FSB, Kremlin. On regarde son entourage. Mmh. Ils sont tous passés par les mêmes réseaux.
Mmh. Peut-être pas tous, mais
il y a toujours un passage à un moment donné, soit le KGB, soit le FSB, quand c'est pas carrément les deux.
Pas tous, parce que il existe la généalogie de Poutine est double. D'un côté, c'est le KGB, le FSB, mais l'autre côté, c'est la commerce du moment de la constitution du marché sauvage, quand il travaillait dans le comité douanier de la mairie de Saint-Pétersbourg.
Exact.
Et là, la douane de l'époque des années 90 en Russie, c'est un lieu le plus corrompu en absolu. Si on cherche le modèle, c'est ça le modèle de la corruption. Mmh. Et là, justement, c'est un commerçant à la fois et agent secret de très bas niveau. Ça, il ne faut pas non plus oublier. Il n'était jamais promu dans les rangs très élevés. Il était toujours une petite figure de ce jeu.
Pas un grand espion.
Pas du tout.
Ah, c'est d'accord. Pas Kim Philby. Hein.
Et là, justement, il a été formé pour exécuter les ordres et il n'était pas visiblement très réussi. Il n'avait pas un agent de réussite. Et de l'autre côté, il a acquis des connaissances, des contacts, etc., dans les milieux criminalisés de l'époque, tout en étant placé dans le comité douanier de l'administration d'une grande ville portuaire. Ce qui rajoute encore une fois la charge de corruption.
Donc d'où son entourage de tous ceux qui font le banc et l'arrière-banc des oligarques actuels.
Absolument. D'un côté, de l'autre, encore une fois, il est aussi entouré par exemple, des anciens physiciens, qui sont les frères Kovalchuk ou certains autres, qui ne font pas partie de mafias de départ, mais qui sont devenus criminalisés par l'appropriation progressive des ressources qui ne sont pas associées au pouvoir criminel, comme par exemple les instituts de physique nucléaire.
Oui.
On se pose une question, mais quel est le lien ? Le lien est très facile, puisque la physique nucléaire, et notamment la bombe atomique, a été le socle dur du régime stalinien. Posséder le l'évier là-bas, cela veut dire de gérer la puissance d'État.
Et de la Russie.
Oui, c'est ça, exactement. Et là, c'est plus complexe. Je ne dirais pas, et j'avertis à ne pas réduire le pouvoir de Poutine au pouvoir de mafia, à des réseaux mafieux tout court, puisque c'est plus large. Et c'est aussi quelque chose qui explique pourquoi ça résiste. Mmh. Si c'était si facile d'abattre le mafia, ou bien, par exemple, l'économie russe qui fonctionnait selon les modèles les plus plates, sur la base de cette violence ou de la compulsion, là, ce serait plus facile. Mais non, ça résiste aussi parce qu'il y a des éléments capitalistes, les éléments d'initiative, les éléments de la motivation tout à fait libre-échange et néolibéral qui sont impliqués dans la construction de ce régime.
Tout à fait. Alors, il y a une excellente série diffusée par Arte, Les Hommes de Poutine. Je vous le recommande. Ça montre, c'est le portrait des oligarques de la première heure. Ils sont très peu visibles. On voit les derniers, Abramovich, les plus flamboyants. Mais il y a un socle sur lequel il s'est appuyé. Et c'est ce socle-là qui a été mis en lumière par ce document. C'est 3 heures de documentaire, 3 fois 1 heure. Un régal. C'est toujours sur le site de Arte. On peut le voir encore jusqu'à la fin de l'année.
Par contre, je voudrais poser une question. Alexandre, là, tu dis qu'il y a une forme amoindrie peut-être de collusion entre la mafia et le système Poutine. Mais pourtant, est-ce que je me trompe ou est-ce qu'il n'a pas affirmé son pouvoir au début de sa présidence, justement en anéantissant les plus gros des oligarques ? En les réduisant, en les emprisonnant même. Alors, qu'est-ce qui a changé là ? Ou qu'est-ce qui dure ? Qu'est-ce qui perdure ?
Je pense que c'est très commun pour l'histoire de tout pouvoir qui devient plus centralisé, plus autocratique, y compris en France, à l'époque absolutiste. C'est que la cour du roi précédent, qui est loyale au roi, doit être remplacé par le nouveau cours qui est loyal au nouveau roi. Je veux dire, je ne suis pas du tout dans cette pensée royaliste.
C'est Machiavel, ça.
Oui, c'est Machiavel.
Mais en tout cas, il a remplacé les oligarques qui ont fait le pacte avec Yeltsin, donc le président précédent, avec ses propres oligarques. Mm. mais sous les drapeaux de la bataille contre l'oligarchie. Et ouais. Ça a été assez intelligent. Oui, ce qu'il fait aujourd'hui, ce qu'il fait aujourd'hui avec l'antifascisme. Mmh. Il lève le drapeau de l'antifascisme pour combattre les antifascistes. Il y a des condamnations, il y a des agressions qui sont tout à fait accordées par le Kremlin. Et là, il y a des cas politiques très spécifiques, comme par exemple le cas de Ruslan Siddiqui,
oui.
Un anarchiste qui porte les deux nationalités, russe et italienne.
Voilà.
Il était formé d'abord en Ukraine et en Russie, ensuite il est parti avec ses parents en Italie. Il est revenu de l'Italie après la formation professionnelle pour travailler en tant qu'électricien en Russie. Et là, avec le départ de l'invasion massive contre l'Ukraine, il a décidé, il a compris qu'il ne peut pas soutenir cette agression. Et ce qu'il a fait, vraiment un acte de partisan classique de la Deuxième Guerre mondiale. Il s'est équipé pour dérailler des trains à destination de l'Ukraine, des trains militaires. Il a réussi. Et là, il est condamné à 29 ans de prison pour ses actes, je dirais, héroïques.
Oui.
Et vous voyez que...
Tu sais, les résistants, pendant l'occupation allemande, ils étaient systématiquement fusillés. Hein.
Exactement.
C'est la même chose.
Oui, mais lui, on a réussi à ne pas le faire tuer. Son t-shirt de soutien est vendu à Publico. 145 rue Amelot, dans le 11e, métro Oberkampf, République, aux Filles du Calvaire. Parce qu'on soutient son comité de soutien en France, et nous avons des t-shirts à son effigie. De son combat plutôt, parce qu'il n'y a pas d'effigie de lui. Mais je suis content, Alexandre, que tu en parles, parce que c'est vraiment, il est vraiment emblématique de
en tant qu'opposant.
Voilà.
J'ai pas tout suivi. Il est emprisonné actuellement.
Oui. Ah oui, oui,
oui. Il a fait tout.
Était en fuite, j'espérais.
Il a fait tout pour ne pas être repéré.
Voilà.
Mais il était très efficace. Oui. Il a passé des kilomètres à pied pour éviter les caméras. Donc il est entré dans les forêts, etc. Donc il était vraiment bravo dans ce sens-là. Très oui. Réfléchi sur ses actes. Et là, même emprisonné, même passé par le tribunal, vous le savez très bien que assez souvent, les militants qui passent devant le tribunal, la ligne de défense, c'est diminuer le crime, diminuer la charge et la gravité du cas. Lui, il a dit non, je le fais consciemment, c'est parce que je suis contre la guerre. Et là, on voit bien que c'est ça l'opposant de Poutine.
Tout à fait. Et c'est bien pour ça que je suis contente qu'on termine sur son cas. Parce que cette émission, hélas, va se terminer. Alexandre, nous te remercions infiniment. Nous rappelons qu'on peut lire le message d'appel au droit en Russie, antifascisme dans le monde, appel à rassemblement le 19 janvier 2009 sur le site de Mediapart, sur le blog Free Solidarité Free Azat. Et il y a un site internet où on peut suivre dans toutes les langues votre action. Je vais donner son adresse pour que les gens se connectent. C'est 19janvier.nob/.
C'est noblog.org.
Noblog.org, voilà.
Oui. C'est un des sites web. Comme je vous ai expliqué, le comité est une structure décentralisée. Il y en a plusieurs sites, et ça, c'est un des sites qui cherche à interpeller le public à l'international.
Voilà.
Redis-le alors.
Non, Alexandre va le redire mieux que moi.
19janvier.noblog.org.
Merci. Voilà.
Merci, Alexandre. Merci, François. Et merci vraiment à Frédéric, sans qui il n'y aurait pas d'émission. Et vraiment, nous tenions à ce que cette émission ait lieu parce qu'elle est emblématique de votre combat. On vous souhaite bon courage. Merci d'être venu. Chers auditeurs, je vous donne rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien. Faites attention à vous. Frédéric, on te remercie infiniment. Je ne le redirai jamais assez. Et à bientôt. Au
revoir. Je vous remercie moi aussi et je vous dis à bientôt.
Merci Alexandre.
La rage. La rage. Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, sur vos roues j'ai perdu mes dents, sur vos roues j'ai vu la fête. le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins. Le vent, j'ai dessiné en mille facettes. Interroger les rues d'un gars sans oublier rue de Lafayette. Ils vous diront, il faut avoir un grain sur les rainettes pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que j'étais sain, je conduisais une camionnette. Sincèrement, j'ignorais le tas. Cela peut arriver au prophète. Monsieur le président, madame Chirac, Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains. Ou moi, cassez les lunettes. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perde la tête. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve, je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve, prévu de me petit futur, l'angoisse fout de la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Il m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à la marche ou crève. Le seul moyen de dire au public que je n'ai réussi à nur. Ici, ils peuvent les faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, Calice, ma jeunesse et ma soeur sur les autoroutes du Toutry Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musée, le rageur de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, l'entend d'Hitler, mon père, il a défendu la source et les artères. Dans les demi de son fils numéro 1. Mais j'excuse l'Élysée si j'ai plus de frein. Si je laisse le moisi à Dieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me petit futur, l'angoisse pour de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge. Tu juges ceux qui m'ont jugé, tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, s'agit des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie les câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés. J'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'Anan m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui c'est vrai qu'Anan, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu éviter sa banane, m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance, mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me petit futur, l'angoisse fout de la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me petit futur, l'angoisse fout de la preuve. La rage.
When Jesus walked, oh, when he walked, when Jesus.